Et il est encore temps de profiter des expositions de l'été. Il y en a beaucoup, comme celle du musée de Pont-Aven. C'est une expo consacrée aux femmes artistes voyageuses, surtout des peintres, mais aussi des sculptrices. Malo Tison l'a visitée pour nous.
Alors au musée de Pont-Aven, on aime bien présenter des sujets inédits, donc c'en est un. On aime bien aussi réhabiliter dans l'histoire et remettre à jour les connaissances sur l'histoire de l'art des femmes. Donc on met à l'honneur les femmes dans notre politique d'exposition temporaire, donc c'est le cas pour celle-ci. C'est aussi une exposition qui est itinérante, donc elle était au préalable au Palais Lumière à Évian. Et donc nous sommes la deuxième étape pour qu'elle puisse être vue par nos publics en Bretagne et les touristes qui viennent nous visiter.
Alors dans cette première salle, qu'est-ce qu'on peut voir ?
Alors dans la première salle, on a une section qui est consacrée aux femmes émancipées, la femme nouvelle de la fin du 19e siècle, une première vague d'émancipation, avec une revendication de pouvoir intégrer des écoles des beaux-arts au même titre que les hommes pour les femmes, une formation artistique en tout cas pour les femmes. Donc les représentantes les plus connues, Marie Bashkirtseff. Et puis ensuite nous passons à l'orientalisme, la vogue de l'orientalisme à la fin du 19e siècle qui est attisée par ce mouvement de colonisation et qui développe en fait en parallèle un tourisme, l'envie d'aller découvrir ces contrées lointaines. Et donc ces femmes qui suivent leurs maris, qui sont parfois ambassadeurs ou ingénieurs dans ces nouveaux territoires conquis, où des femmes exploratrices vont donc aller sur ces territoires et découvrir les populations locales et en faire une représentation picturale qui seront pour certaines présentées dans des salons artistiques de l'époque. Il y a à peu près 120 tableaux, peintures, mais on a aussi des sculptures, des dessins, des œuvres sur papier, des photographies. Donc voilà, les médiums sont très variés.
On arrive maintenant dans une seconde partie.
Et on est toujours dans l'orientalisme, en fait, ici. Ce sont ces femmes qui sont venues au Maroc, en Algérie, comme je le disais, avec leurs compagnons, leurs maris, leurs époux, découvrir la vie locale et faire des représentations de ces femmes et de ces hommes qui sont un peu parfois idéalisés. Enfin, c'est vraiment un regard d'occidental sur ces populations-là. Et ici, nous sommes devant l'œuvre « Intérieur arabe à Constantine » de Marie-Lucas Robiquet. Donc c'est la fille d'un officier de la Marine nationale, elle a fait l'école des beaux-arts, donc elle a une formation artistique académique et elle va accompagner son mari dans ses déplacements et elle va notamment aller à ce qu'on a appelé un oasis, l'oasis de Biskra, qui était un lieu d'hivernage en fait. Les artistes y allaient l'hiver parce que il faisait meilleur et puis c'était un lieu de foisonnement artistique, c'était un petit peu le Pont-Aven de l'Afrique du Nord. Et donc de ses différents voyages en Algérie ou en Tunisie, elle a ramené des œuvres, dont celle-ci, qui elle révèle en fait un attrait pour le quotidien et les tâches des femmes traditionnelles, le tissage traditionnel, les métiers traditionnels du Maghreb. Donc on les voit en tenue aussi traditionnelle de là-bas et en train de tisser et dans un intérieur en fait du Maghreb. Alors ici, on a une autre œuvre et une autre section d'ailleurs qui est consacrée à André Carpelès. Donc cette femme en fait a séjourné en Inde dès son enfance et elle a noué des liens avec la famille intellectuelle des Tagore. Rabindranath Tagore était prix Nobel de littérature en fait, donc elle a des liens avec eux. Et de retour en France, elle va se consacrer à la traduction, à l'édition et à l'illustration de textes de la littérature indienne. Et donc ce tableau qui était au départ un sans-titre, quand on a fait l'exposition, quand on a cherché les tableaux, il a été trouvé sans-titre. Et ce qui est assez exceptionnel, et c'est une anecdote qu'on aime bien raconter justement, c'est que dans le cadre de cette exposition, on a une programmation culturelle, on a monté des partenariats, et on a monté un partenariat avec l'association Babelium à Quimperlé, qui s'occupe de former en fait les personnes d'origine étrangère arrivées sur le territoire, de leur prodiguer en fait des enseignements culturels sur la France, etc. Enfin, c'est assez varié. Et donc, on a noué ce partenariat dans l'optique de leur faire, et qui viennent souvent des pays en fait qui sont représentés dans l'exposition. On leur a demandé en fait de choisir un tableau et d'exprimer ce qu'ils ont ressenti et pourquoi ils ont choisi ce tableau. Et donc, nous avons un des participants qui a choisi saisi ce tableau et nous n'avions pas identifié en fait le lieu de ce tableau. On pensait que c'était un cimetière et en fait il connaissait, il était déjà allé dans ce lieu en Inde et donc il a pu nous aiguiller et nous révéler en fait qu'il s'agit bien de moines devant le temple de Mahabodhi à Bodh Gaya en Inde. Donc c'était une jolie histoire parce qu'il était très ému du coup de pouvoir contribuer à sa manière à cette exposition. Et vous pouvez, dans le parcours de l'exposition, flasher un QR code et écouter leurs commentaires. On en a fait des podcasts, en fait.
Tout ce secteur-là n'est pas dédié à André Karpeles.
C'est ici André Karpeles, okay, l'un d'André Karpeles.
Très bien.
On a une section dans l'entre-des-guerres qui parle de l'orientalisme, mais continuité et rupture, donc certaines artistes qui ont en fait rompu avec ce style, ont innové avec un style beaucoup plus moderne, comme Marcel Hakein et ce berger Audouard. Donc très grand tableau. Donc Marcel Hakein a aussi une formation académique à l'atelier Imbert et à l'école des Beaux-Arts à Paris. Elle va gagner de nombreux prix, donc c'est une artiste reconnue à l'époque, parce que l'optique de l'exposition, c'est aussi de ressortir de l'oubli certaines artistes qui ont connu pourtant un succès ou une reconnaissance, en tout cas de leur vivant. Et donc avec ce berger Audouard d'un très grand, ce qui est un très grand format, qui date des années 1930. Son inspiration est assez cubiste, on le voit. On est dans les années 30, donc le cubisme est déjà passé, mais voilà, il y a une influence de l'art moderne dans sa représentation. Donc on est moins dans les scènes orientalistes du début, très, peut-être un peu plus réaliste, et plus là une interprétation artistique plus moderne. Ensuite, on a une section consacrée au tourisme et à l'expansion coloniale. Donc, certaines artistes comme Jeanne Thiel ou Thérèse Leprat ont été embauchées par les compagnies transatlantiques pour aller faire des photos, des représentations et faire même des affiches de promotion pour inciter à aller découvrir l'Afrique occidentale équatoriale française, enfin ces territoires de la colonisation à l'époque. Et Thérèse Leprat, elle est allée du côté de Tahiti, donc elle montait à bord en fait des paquebots de croisière, se rendait là dans les îles et faisait des photos. Donc là, on a des photos originales prêtées par le musée du Quai Branly, des portraits, etc., qui devaient servir aux brochures et aux documents publicitaires.
Nous arrivons maintenant dans une nouvelle section. Quelle est-elle ?
Alors là, nous parlons des nouveaux territoires et de l'influence de ce qu'on appelait à l'époque la croisière noire ou les bals nègres dans les années 20. En fait, il y a eu toute une fascination pour les populations noires africaines et des artistes s'y sont intéressés. Et là, dans cette section, la particularité, c'est qu'on a des femmes sculptrices, donc Anna Quinco ou Jeanne Tercafs. Jeanne Tercafs, c'est une artiste belge qui a passé 18 mois au Congo, au sein de la tribu des Mangbetu. Elle s'est intégrée à cette tribu, elle était très amie avec Odani, la femme du chef, qu'elle a représentée juste là. Et ça lui a permis donc de bien s'intégrer. On a des photos qu'on peut voir dans le couloir qui ont été rapportées de ce séjour. Et puis donc elle a représenté en sculpture en bronze plusieurs bustes et portraits de cette tribu. Et leur particularité, c'est que dès la naissance, ils enserraient le crâne des enfants, ce qui fait que ça leur fait un crâne allongé qu'on découvre justement dans ces sculptures. Et dans notre exposition, on ne pouvait pas tout exposer, bien sûr. Donc on a enrichi le parcours et la scénographie avec des documents. Donc dans le couloir de l'exposition, vous pouvez en fait feuilleter des reproductions des hommes et des femmes qui ont été les modèles en fait des artistes et des œuvres que vous voyez dans le reste de l'exposition.
Oh les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images. Car voyages.
Voilà, alors on change de continent aussi en changeant de salle, puisque là, on arrive en Asie. On va parler plutôt des artistes chinoises et aussi de celles qui sont allées en Indochine ou au Laos. Donc on a deux artistes chinoises, Pan Yu Liang et Fan Chun Pi, qui sont venues, elles, on fait le voyage inverse, c'est-à-dire qu'elles sont venues se former à Paris. Mais on voulait quand même parler d'elles, parce que leurs œuvres ont leurs choses à dire et sont très intéressantes. On parle aussi d'Alexandra David-Niel, qui est peut-être l'une des plus connues en termes de nom dans l'exposition, puisqu'elle est la première femme occidentale à avoir réussi à aller à Lhasa. C'était une spécialiste du Tibet. Elle est partie de nombreuses années, sac à dos, là c'est vraiment l'aventurière. Elle a ramené des photos et surtout des récits et voilà, de la littérature sur tous ses périples. Donc on y présente des photos et puis un film explicatif de sa vie. Et puis après, vous avez d'autres artistes comme Alix Aimé ou Léa Lafugy qui là sont allés plutôt au Laos ou en Indochine et ont ramené de belles peintures représentant des marchés, des nus aussi. Ou des tribus locales comme les Yolo. On a aussi des carnets de voyage de Léa Lafugy qu'on peut voir dans des vitrines. Alors ça, c'est un peu le clou du spectacle. C'est un morceau d'une frise qui faisait 40 mètres de long et qui était exposée... il s'agit d'une frise... qui avait été exposée en 1931 à l'exposition coloniale, de 40 mètres normalement. Donc nous n'avons qu'un morceau de 3 mètres, donc pièce très fragile aussi en termes de conservation des œuvres, qui vient du musée du Quai Branly. Et cette grande frise, en fait, avait vocation à présenter les différentes ethnies. Donc on le voit d'ailleurs au visage des personnages, vous voyez des traits assez différents, les différentes ethnies indochinoises.
Et on peut voir cette exposition de peinture et de sculpture, artiste voyageuse, l'appel des lointains, 1880 jusqu'en 1944, au musée de Pont-Aven jusqu'au 5 novembre.